RTL L'équipe, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. 11h30, midi 30, Carrément Moteur, une heure d'actualité consacrée au sport mécanique. Et pour ceux qui sont derrière le poste, eh bien, n'oubliez pas que ce rendez-vous est d'importance. En effet, on va y parler de courses prestigieuses et pour cela, vous qui êtes fidèles au poste, il y en a d'autres qui sont fidèles au poste et je pense à Gilles Delaposta, à ma droite, Eurosport. Salut Gilles.
Salut Christian.
Alors à ma gauche, j'allais dire Bruno Scagliotti, mais Bruno Scagliotti, non, c'est une blagounette de notre cher Bruno qui doit slalomer dans les rues de Paris sans doute. Il va nous rejoindre, nous irons bien évidemment, mon cher Gilles, du côté de Monaco. Avec le championnat du monde de Formule 1, mais pas seulement. Il y a beaucoup de monoplaces. Il y a le championnat GP2, le championnat World Series by Renault, Formule Renault 3.5. Autant vous dire qu'il y a du spectacle dans les rues de la Principauté. Nous filerons de l'autre côté des informations après 12 heures. Nous filerons en Argentine. Nous essaierons en tout cas de ne pas réveiller de façon trop intempestive Jérôme Bourret qui sera nos yeux de ce rallye d'Argentine. Bien évidemment, une compétition qui sera sans doute intense, n'est-ce pas mon cher Gilles ? Dans la mesure où il y a deux hommes qui vont encore, enfin même plus, ils sont quatre, mais ça va être chaud.
Oui, il y en a deux.
Mais il y en a un peu plus.
Ils sont quatre, mais il y en a deux.
Il y en a un peu plus de quatre. Voilà, c'est le rallye d'Argentine et c'est sur la terre. Ça peut aller très vite, ça peut être très étroit aussi, ça peut être sinueux, technique. Voilà, ça peut être un rendez-vous très important en tout cas. Ogier cherchera à y combler un retard au classement.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être, voilà, puisque on est en pleine période de Roland-Garros, ça peut être. Enfin, Sébastien Loeb pourrait faire le break.
Oui.
Pas mal.
Effectivement, il pourrait faire le break. Côté break, il est arrivé avec son break. C'est Bruno Scagliotti.
Laisse tomber.
Comment ça va, Bruno ?
Si je commence à vous raconter tout ce qui m'est arrivé depuis deux jours, on n'est pas
rendu. Il fallait pas être à Monaco hier soir, mon vieux, les avions, ça marche pas si bien.
La dernière en date, c'est que je me suis retrouvé coincé dans un bus avec les portes fermées, on n'arrivait pas à les ouvrir.
Prise d'otage, on nous a pas réclamé l'argent, Bruno, je te le dis tout.
Tiens, j'ai
suite.
qu'une oreille dans le casque.
Bon, eh ben, écoute, de toute façon, t'en as qu'une sur la tête, c'est assez normal.
On
ne
peut plus
aussi,
sortir du studio, ça y est, l'alarme incendie s'est déclenchée, bah, les portes sont fermées.
Les garçons, il y avait sur cette antenne, il y a quelques jours, quelques heures, un homme éminent du sport automobile, Jean Alési. Il a longuement bavardé avec Emmanuel Barbe dans le cadre du Café des Sports. Et Jean Alési s'est laissé aller à quelques avis que l'on dira autorisés s'il le veut, puisqu'il était interrogé par un journaliste. Il dit ce qu'il veut, il parlait football.
C'était avant ou après l'apéro ?
Ouais, je sais pas, en tout cas Jean il s'est un peu élevé contre l'attitude des footballeurs français à Naïsna, c'était pendant la Coupe du Monde l'an passé, il s'est élevé aussi par cette affaire des quotas et toutes les histoires abracalabrantesques qui se sont faites jour autour de cela et cela a inspiré notre ami Bruno.
Sur RTL l'équipe, carrément moqueur, Bruno Scagliotti.
Bon, c'est vrai, on en a pas mal discuté avec le chef, il était pas chaud, en plus il était tard et je l'emmerdais. Mais là, franchement, ça m'a tellement mis hors de moi qu'il fallait que ça sorte. Cette semaine, on va un peu diverger, mais pas tant que ça, on va parler foot. Ou plutôt, on va parler du dérapage, pas du tout contrôlé, du sieur Alési sur cette même antenne cette semaine. Parce que monsieur Alési a un avis tout à fait définitif sur les quotas dans le foot français et il le donne. Il n'était pas obligé, mais il faut croire qu'on lui a demandé. Monsieur Alési est pour les quotas dans le foot, c'est son droit le plus strict, on est en République, je ne lui conteste pas ce droit, mais même si je suis loin de partager son opinion. Là où ça patine et où on file tout droit dans le mur de pneus, c'est quand monsieur Alési explique pourquoi. En substance, si ça a mal tourné en Afrique du Sud, c'est parce qu'on avait envoyé des talibans. C'est pas moi qui y fantasme, ça s'appelle une citation. On fait péter la phrase exacte. On a vécu avec une équipe de talibans qui se sont comportés envers le drapeau français et les fans français comme des voyous. Donc moi je comprends Laurent Blanc quand aujourd'hui il met les mains un peu en avant en disant attention, moi je veux une vraie équipe de France. C'est sûr qu'en F1, l'équipe de France, on n'a pas trop de questions à se poser avec. Je préfère croire qu'il était passé au ravitaillement un peu trop longtemps avant de craquer comme ça. Peut-être faudrait-il que monsieur Alési nous explique ce qu'est une vraie équipe de France. France, parce que soit c'est mes yeux, soit l'intégralité des joueurs qui composent cette équipe sont français. Un peu comme Lewis Hamilton est anglais, vous voyez. C'est toujours dangereux de parler d'un sport qui n'est pas le sien. En tenant ses propos, M. Alesi a certes fait une belle pub à notre antenne, mais il est surtout devenu la risée de toute la presse. Faire pire que sa marionnette au guignol, on pensait ça impossible, et pourtant il l'a fait à fond, à fond, à fond. Alors, s'il vous plaît, M. Alesi, parlez-nous de F1 et rien que de ça. Vous avez été un très bon pilote, vous avez une vraie connaissance et une fantastique maîtrise du sport auto. Le problème, c'est que maintenant, on va avoir un peu plus de mal à vous prendre au sérieux. Les talibans, ce sont des terroristes, des vrais, pas une bande de clowns pitoyables comme l'équipe de France 2010. Vous vous êtes raté au freinage, monsieur Alesi. Ça va une fois, mais n'en faites pas une habitude.
RTL l'équipe, la Formule 1.
Romain Grosjean, il est suisse, non ?
Ben, il est franco-suisse.
Oui, il est suisse, mais il a une licence française.
Oui, d'accord. Il roule sous licence française.
Il fait partie des quotas, non ?
Ben, je ne sais pas s'il fait partie des quotas, mais malheureusement, pour l'instant, il est plus en F1.
Non, mais et puis surtout, s'il faut mettre des quotas dans l'équipe de France de sport auto, on va en mettre, mais pour l'instant, ils ne sont pas respectés.
Oui, ça, c'est bien embêtant tout ça.
Bon, allez, bon, on va retourner à Monaco, où là, il y a des quotas aussi.
Et ça, c'est sûr, n'entre pas qui
et
veut.
Et là, il y a des bons quotas. Il y en a un qui a réussi à rentrer là-bas, sans doute en montrant carte blanche.
Pas de blanche.
Carte gold, pas de blanche, carte gold, et voire Black Millennium, tout ce que vous voulez. François Doré, tu es là ?
Oui, salut Christian. Bon. Bonjour à tous.
Ça tangue pas trop sur le pont du yacht, François ?
Non, pas du tout. C'est beau. Tout va bien. Champagne, petit four, jolie femme. Enfin bref, Monaco.
On y est bien, Monaco, mon cher François, voilà. Évidemment. Est-ce que Frédéric Ferret est là aussi ? Allô, Frédéric ?
Non, il bosse, lui.
Il est dans les petits fours.
Frédéric Ferret, vous êtes...
Voilà, l'explication, c'est qu'il y en a un qui travaille et l'autre qui regarde.
Ah bah oui.
Ah bah voilà, vous êtes organisés, les garçons. On est à Monaco. Hein. Bah,
sur le yacht de Flavio Briatore, tout le monde tient pas non plus. Hein.
N'oublions pas, les garçons, que c'est la sixième manche du championnat du monde de Formule 1, qui en compte officiellement 19, peut-être 20, si Bernie obtient ce qu'il veut. Alors, à Monaco, je vais le faire, hein. C'est un peu une vieille rengaine, mais il y a 78 tours.
Voilà,
c'est fait.
Bravo, ça y est.
Non, en tout voilà. Cas, on rigole, François. Il y a 78 tours dans un endroit complètement
dingue. Gilles est en train
dingue.
De réfléchir parce qu'il est né après l'invention du CD, il comprend pas.
Ah oui, d'accord, bon. Oh là là.
En tout cas, mon cher François, 78 tours avec, alors, des incertitudes. On a regardé un peu les premières séances d'essais libres. Messieurs, pas facile de savoir ce qui va se passer. Faut attendre samedi matin et l'heure de qualif. En tout cas...
Oh si, c'est Vettel qui va gagner.
D'accord. Ça, c'est une première indication de jeu. François, il y a...
Peut-être pas, justement.
Alors, on va régler une chose tout de suite. On va utiliser le DRS à Monaco, mais seulement derrière les stands, hein, sur la ligne droite de chronométrage.
Oui, mais alors cette histoire-là, c'est une histoire ridicule qui n'avait pas l'objet d'être.
Voilà.
Dans la mesure où, de toute façon, la ligne de DRS, j'y suis passé hier soir en voiture, en Alfa Romeo de location. La ligne de DRS, elle est délimitée pour la course sur la ligne droite des stands. Tout simplement, elle part de la sortie du virage Anthony Nogues et elle va jusqu'au virage de Saint-Devote.
D'accord.
Et c'est, pour la course, ça a toujours été déterminé comme ça.
Uh-huh.
Et le règlement, il y a une zone de DRS, point barre. Alors, cette fameuse, la polémique qui s'est fait jour ensuite autour de l'utilisation ou pas du DRS dans le tunnel, oui, c'est juste valable pour les essais libres et la qualification. Voilà, il a été décidé que il n'y aurait pas d'utilisation du DRS dans le tunnel pour raison de sécurité. Bon, très bien. Maintenant, de toute façon, utilisation ici du DRS, ça n'apportera rien du tout, y compris sur la ligne droite des stands. C'est inutile, ça ne servira à rien. Les pilotes en sont parfaitement conscients.
Gilles.
Et puis on peut faire confiance à François Doré pour que son système de drague soit actionné absolument en permanence quand il est à Monaco.
Non, c'est un drague réduction système.
En tout cas, ce qu'on a vu avec le DRS, c'est que sur la ligne droite des stands, derrière, à Saint-Devote, il y en a plusieurs qui ont été faire un petit tour dans l'échappatoire et refaire un petit donut pour chauffer les pneus. Hein.
Oui, c'est le risque, effectivement. Mais de toute façon, pour les dépassements, il ne faudra surtout pas compter là-dessus, parce que il n'y a qu'une seule trajectoire. De toute façon, la ligne droite des stands, elle est bien courte, déjà, ça commence comme ça. Il y a une seule trajectoire, c'est intérieur. Et si le pilote qui est devant ne fait pas la bêtise d'élargir sa trajectoire à l'extérieur, personne ne peut passer. Ouais. On ne peut pas faire l'extérieur à somme des votes. C'est juste impossible.
Mais François, si je me souviens bien, la polémique ne portait pas que sur le tunnel. Je me souviens de Roubignot qui ne voulait pas qu'on utilise le DRS du tout.
Bah, de toute façon, utiliser du tout, ça ne change rien. Ça ne changera rien. C'est le seul circuit de l'année où le DRS ne servira pas. Il n'y a pas d'objet.
Bon, en tout cas, on est à Monaco. On va en tout cas rappeler que ça va être chaud bouillant et que l'on a retrouvé notre ami Fred Ferret qui est là, lui aussi, dans ce bel endroit qu'est Monaco. Salut, Fred.
Bonjour. Parfois, c'est plus dur de joindre de Monaco que de Malaisie. <Ouais. rire>
Fred, tout va bien. Alors, Monaco, soleil. Tiens, d'ailleurs, la course...
Pas soleil aujourd'hui, non.
Non, mais dimanche, ce sera sur sec. Ce sera sur le sec, a priori.
A priori, mais le rocher de la Turbie attire bien les nuages. Et vu que c'est un peu à l'orage, on pourrait avoir quelques gouttes.
Alors, on le disait en préambule, mon cher Fred, évidemment, on attend les Red Bull aux avant-postes, comme on peut espérer que Hamilton saura tirer son épingle du jeu. Alors, chez Ferrari, ça a pas mal bougé cette semaine. Il y a des gens qui ont un peu perdu leur boulot, ou en tout cas, on leur en a trouvé un autre et puis ils ne voyageront plus. Je pense à Aldo Costa, notamment. Fred, est-ce que chez Ferrari... c'est vraiment, il est urgent, mais alors super urgent de se dépêcher. Hein.
C'est ce que dit Fernando Alonso, oui. Ouais. Je pense qu'ils sont bien que l'écart croît de plus en plus, que Mercedes revient dans les...
Vous a... Ah, il ne faut pas que vous bougiez, mon pauvre Fred, on vous a reperdu.
Ah,
il est là. Il est
je
là.
Suis là.
Oui, bon, je vous en prie, Fred, c'est à vous.
Et c'était juste pour vous dire que Alonso est effectivement un peu inquiet. Il sent bien que la course de Barcelone lui a donné un petit coup au moral de se prendre un tour par le vainqueur.
Ouais.
Et en voyant que les Mercedes n'étaient pas très loin de lui. Ça l'inquiète un peu.
Bruno.
Et Fred, justement, votre avis sur cette restructuration, c'est pas facile ce matin. Moi, j'ai l'impression qu'au lieu de désigner un leader auquel tout le monde va se fédérer, on a éparpillé les tâches et que ça va être totalement contre-productif.
Je crains qu'on soit en train de revivre un peu un épisode à la Ferrari sauce anglaise des débuts des années 90.
Eh ouais.
Ah, il me l'a volé.
Ça part un peu dans tous les sens.
Ouais, ça part un peu.
Tu m'enlèves les mots de la bouche, Fred. J'étais pas vieux, hein. Désolé les gars, mais ça me rappelle un petit peu, ouais, une époque où il y avait beaucoup de passages chez Ferrari, parce que il faut pas croire, un mec comme Aldo Costa, il va pas rester au chômage plus de 48 heures, hein, et il va être repris par une équipe qui va finir par renforcer.
Il est pas viré de Ferrari.
Non,
hein.
Oui, mais bon, quand on met.
Oui. Mais attends,
je suis pas sûr qu'il bouge beaucoup.
D'accord,
avec Fred, il bougera pas forcément. Et puis d'ailleurs, si je peux me permettre une petite réflexion là-dessus, Aldo Costa paye les pots cassés, c'est clair, parce que de toute façon, la succession de Ferrari qu'on vient de voir depuis trois ans à peu près ne sont pas les meilleures voitures. Il n'y a eu aucune trouvaille. Une des trouvailles des ingénieurs. Comme les diffuseurs ou les chapeaux soufflés ou ainsi de suite, ne viennent chez Ferrari sur ces dernières années. Rien, aucune inventivité. Les voitures sont extrêmement conventionnelles. Et par ailleurs, le vrai problème aujourd'hui, c'est l'aéro. Et apparemment, Tom Battis, qui est le responsable de l'aéro chez Ferrari, est pour l'instant toujours en poste.
Oui, mais est-ce que c'est pas le prochain sur la liste? Le sentiment que j'ai, moi, c'est que à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, et en ce moment c'est plutôt que ça, il faut qu'on donne un responsable sous la pression de qui ça on laisse juge, mais surtout on est en train d'établir un climat et qui est propice à tout sauf au rattrapage de l'écart par rapport au Red Bull, et on va se retrouver avec une équipe Ferrari de plus en plus faible. La catastrophe absolue, c'est qu'au bout d'un moment, Alonso, qui est le seul finalement à tenir la baraque, finisse par mettre les voiles, et on va se retrouver avec une équipe Ferrari qui va revenir à où elle était avant l'ère Todd Schumacher, quoi. Ou l'a quitté Jean Alesi, plutôt que de nous parler d'équipe
c'est
de France.
C'est sûr qu'Alonso, il risque de se lasser, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus bleue et les boissons plus toniques, quoi.
Ouais, bah,
la chance de Ferrari, c'est d'avoir Alonso et de l'avoir signé pour longtemps. Parce qu'il est un fédérateur énorme et un gage de d'encouragement pour toute l'équipe. C'est-à-dire qu'avec une voiture moyenne, il pourra obtenir de bons résultats. Avec une voiture bonne, il pourra obtenir d'excellents résultats. Et ça pourra les aider à reconstruire. Je ne pense pas qu'il aura envie de partir tout de suite en ayant re-signé jusqu'en 2014 avec une option jusqu'en 2016. Ouais. Et c'est, et la chance de maintenant la chance de Ferrari, c'est peut-être que monsieur Montezemolo parte à la retraite, parce que je pense que c'est lui qui met une grosse pression pour avoir des résultats et ne pas ne pas partir la tête basse.
Moi, je me demande si, Gilles. Pardon, mais je me demande si paradoxalement le titre de Kimi Raikkonen a pas été, je ne sais pas quel terme employer, mais néfaste pour l'équipe. C'est qu'il a donné, et, voilà, illusoire. Il a donné une illusion à cette équipe qu'elle était toujours aussi forte. Or, elle était sur la lancée de ce qui s'était fait jusque-là.
Oui, enfin, depuis le temps, ils ont eu le temps de s'en rendre compte quand même.
Mais non, je pense que non.
Massa est champion du monde pendant 5 minutes aussi en 2008.
Hein. Et ouais, non, mais bien sûr,
peut-être moins que ça même.
Non, c'est clair que Ferrari s'est sans doute un peu endormi ou en tout cas a eu une fausse image de son potentiel à ce moment-là. Les garçons, un court instant François, parce que on doit filer tout de suite à Roland Garros.
Pour suivre tout Roland Garros, écoutez RTL l'équipe.
Alors on y retrouve Eric Silvestro, les internationaux de France, c'est du côté de la Porte d'Auteuil. Mon cher Eric, tout va bien ?
Salut Christian, bonjour à tous, il n'y a pas d'obligation, hein, prenez votre temps, pas de souci. Il fait beau ici à Paris, à Roland-Garros, on se régale sur la terre battue. Je vous fais juste un petit point sur les premiers résultats du jour. Gisela Dulco, l'Argentine, qui sera à votre goût messieurs, puisque j'ai compris que tout à l'heure vous draguiez bien à Monaco. Eh bien face à Samantha Stosur, l'Australienne finaliste l'an dernier, elle mène 5 jeux à 2 l'Argentine et sert pour le gain de la première manche. Peng, la Chinoise, mène également 3-2 avec le break dans le premier set face à la tenante du titre, l'Italienne Francesca Schiavone, et enfin l'Espagnol David Ferrer, tête de série numéro 7, qui sera peut-être l'adversaire de mon fils en 8e de finale, et bien a déjà remporté le premier set 6 jeux à 1 face à Stakowski.
Par contre, si tu vois Bartoli, tu lui dis bonjour, mais tu t'arrêtes là.
Pour toi ?
Ouais.
D'accord.
Merci Eric. On vous retrouve dans un petit quart d'heure.
Jusqu'à 12h30, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Ah, Roland Garros, Monaco, tout ça. Ça y est, c'est chic, Carrément Moteur. Les garçons qui aident.
C'est le mois du bling-bling, le mois de mai.
Ouais, on va revenir.
En parlant de bling-bling, on retrouve François Doré.
Oh, c'est
oui, par
facile.
Exemple.
Les garçons, Sébastien Vettel est leader du championnat du monde. Ça, on le savait, 118 points. Belle avance sur Lewis Hamilton, 77, Weber, 67. À Barcelone, ce fut chaud bouillant dans les 5 derniers tours quand même. On a vu qu'Hamilton, il n'allait pas se laisser faire comme cela. Plus que jamais, le pilotage à sa part, a une grande part évidemment dans un succès, ou en tout cas dans une bonne position sur la grille ou pendant la course. Ça ne changera pas, François, Fred. On va retrouver les meilleurs pilotes aux avant-postes ou... Est-ce qu'à votre avis, de spécialiste et de témoin privilégié, les Red Bull ont encore une petite avance à Monaco ? Fred ?
Ils ont une petite avance, mais elle est gommée par la particularité de cette piste. C'est la seule piste pour l'instant où, à armes égales, les autres voitures peuvent refaire leur retraite à une seconde samedi à 15h. Mmh. Ils le disent tous et en plus, ils travaillent là-dessus. Donc. Et pour rajouter encore une chose, Vettel n'a jamais été bon à Monaco.
C'est vrai.
Exact. C'est
alors, vrai. Justement, François, il ne brille pas forcément à Monaco. Pour preuve, l'an passé, il n'avait rien pu faire face à son équipier Mark Webber. Petite donnée importante aussi, François, les pneus, la stratégie. Pirelli a amené des super tentes, genre des chamallows à Monaco. Il va falloir savoir, encore une fois, faire de la gestion, comme nous le montre Button parfois.
Oui, sans doute. Mais alors les pneumatiques utilisées ici, enfin apportées ici par Pirelli, c'est l'inverse de ce qui s'est produit au Grand Prix précédent à Barcelone. C'est-à-dire qu'il y avait des super durs qui étaient super lents. Alors qu'ici, nous avons des tendres et des super tendres. Alors apparemment, l'écart de performance entre les tendres et les super tendres est de plus d'une seconde en faveur des super tendres sur un tour rapide. Mais le problème, c'est la durabilité du pneu. Le problème est le suivant, c'est que se qualifier avec des pneus super tendres qui sont évidemment plus rapides que les tendres, c'est une possibilité. Le seul problème, c'est s'il faut s'arrêter au bout de 5 tours et qu'on se retrouve ensuite derrière un peloton avec des pilotes en demi-degré qui sont partis avec des tendres. pour dépasser, ce sera juste pas possible.
Ouais. Bruno.
Donc on peut rester scotché avec derrière en fonction de la stratégie des différentes équipes. On peut, avec la meilleure voiture, rester finalement scotché derrière des voitures plus lentes.
Mmh. Bueno.
Ça va être un vrai problème de stratégie.
Pour ajouter, pour ajouter un autre paramètre, c'est la montagne de gomme que laissent les Pirelli sur la partie pas utilisée de la trajectoire.
Ouais. Faudra
et
pas
notamment la visite
les pneus.
Au tunnel est impressionnante.
Il ne faudra pas mettre les pneus là-dedans, c'est clair.
Ah non.
Alors justement, c'est un circuit de pilote, mais c'est aussi un circuit de stratège. Alors pour en revenir à Ferrari, le fait que ce soit un circuit de pilote, ça peut les aider parce qu'Alonso est quand même un super pilote. Le fait que ce soit un circuit de stratège sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, ça peut être inquiétant, ça.
Ça peut être inquiétant pour eux et bon pour McLaren.
Voilà.
Ouais. Et alors les garçons, ça on est dans les écuries qui sont un petit peu encore au-dessus. Hein, voilà. Après on y trouve plus facilement Lotus et Mercedes qui bataillent et qui ferraillent. Alors dites-moi si je me trompe, mais
Lotus Renault.
Oui, Lotus Renault. J'ai un petit peu l'impression quand même qu'alors déjà Heidfeld n'est pas trop vénard, il est toujours là où il faut pas au mauvais moment. Mais j'ai un peu l'impression alors je me trompe peut-être, mais vu de loin comme ça manque de prise de risque, non Fred? Il faudrait pas essayer d'être un peu plus audacieux parce que la voiture marche bien manifestement. Hein.
Alors Petrov, il est capable de prendre des risques, ça on sait.
Ouais, mais il est capable de finir 11e.
Une voiture 3, donc voilà. C'est le russe à l'attaque. Heidfeld, il n'a jamais été réputé pour ça. C'est un solide pilote régulier. qui a quand même fait une super course.
Très belle.
Dimanche dernier, presque en partant 18e et arrivé 8e en remontant, c'est un peu la même prouesse que Weber en Chine. Mm-hmm. Maintenant, je pense que Éric Boullier, il doit avoir une petite pression à mettre sur ces deux pilotes et en particulier sur Heidfeld parce que l'an dernier, Kubica, il était en première ligne à côté de Weber et il finit quand même sur le podium le lendemain.
Exactement.
Et là, on va voir, je pense, le manque et l'absence que laisse Kubica.
Ouais, oui, François, vous voulez rajouter?
Oui, non, ça, c'est clair que l'absence de Kubica se ressent, forcément. Cela dit, je pense que la vraie valeur de la Lotus Renault GT actuelle, elle est donnée par Heidfeld. Il donne le maximum de ce qu'il est possible de faire avec cette voiture. Un Kubica serait capable, comme Alonso par exemple, aurait été capable d'en tirer 150%, ce qui n'est pas forcément la vraie valeur de la voiture. Alors par ailleurs, Heidfeld est un vrai finisseur. On l'a vu encore une fois la semaine dernière à Barcelone. Il a des qualités pour ça. Pour ce qui est de l'écurie Lotus Renault GP, il semble qu'Éric Boullier a aussi un peu la pression à mettre sur son équipe parce que, par exemple, pour la première séance d'essai libre hier, Éric Boullier n'était pas très content en fin de séance parce que les voitures n'avaient pas suffisamment tourné à son goût pour les pilotes. Ici à Monaco, c'est tellement spécifique, spécial, les pilotes ont besoin de rouler.
Eh oui.
Les trajectoires, les freinages, le rythme dans l'esprit pour gagner de la confiance. Et apparemment, l'équipe Lotus Renault n'a pas suffisamment fait tourner ses pilotes hier en première séance.
Ah,
que la voiture fonctionnait pas trop mal.
Ouais, ouais, bonne information. Ouais. Gilles, vous vouliez rajouter?
Oui, puis quand vous disiez Christian qu'il aurait peut-être fallu prendre un petit peu de risque, c'était pas non plus le moment de casser la voiture. Bon, même si Petrov a quand même fait quelques figures, mais c'était pas le moment non plus de grimper au rideau. Il y aura la qualification pour essayer effectivement. Voilà, là s'il y a un risque à prendre, ça sera à ce moment-là. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait. Enfin, je pense plus à Petrov qu'à Heidfeld parce que je pense que c'est pas franchement le genre de Heidfeld, mais qui dégoupille pour la qualif en se disant bon, on joue le tout pour le tout et sur un tour ça peut passer pour Petrov. Voilà, pour moi le temps fort pour Lotus Renault ça sera là et avant ça serait c'est encore un peu prématuré. Même s'il aurait fallu effectivement tourner plus que ce qu'ils ont fait hier.
Et au passage, Éric Boullier a confirmé ce qu'on savait de toute façon, c'est que c'est mort pour Kubica cette année.
Oui, mais ça.
Oui. C'était juste inimaginable qu'il puisse revenir cette année.
Franchement.
Même le Robert lui se galvanise en disant que il pourrait essayer, que voilà, il a fait des tours à Spa-Francorchamps avec une, en se servant d'une seule main. Enfin bref, mais tout ça, c'est juste un rêve, quoi.
Ils ont eu
cette chance de revenir, mais ça va être très, 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 très compliqué.
On a l'exemple avec, et je pense que François sera d'accord avec moi, on a l'exemple avec Felipe Massa. Revenir d'un accident grave, et gravissime, en l'occurrence, pour les deux, c'est très, très, très compliqué. Et déjà qu'à 100%, c'est compliqué, revenir à 99 ou à 90, parce que revenir, c'est une chose. Il faut avoir récupéré absolument toute la motricité et toute la sensibilité de la main pour Robert. Très sincèrement, je vous dis franchement, j'y crois pas trop. Moi, et d'expérience, j'ai eu un problème de nerf, moi, dans l'épaule. C'est extrêmement long et ça n'est qu'une épaule. Et je fais pas de Formule 1. Là, on parle de la main et de piloter une Formule 1. Très sincèrement, j'y crois pas du tout.
Alors pour Robert.
D'autant plus aujourd'hui, avec les volants, avec les boutons supplémentaires, du DRS, du KERS, tout ça, il faut vraiment une dextérité très importante aujourd'hui au volant d'une Formule 1.
Ouais, parce que c'est des petits clics, en fait. Donc si vous n'avez pas toute la sensibilité, vous pouvez mettre 3 clics au lieu d'en mettre 1 et ça change, ça transforme la voiture.
Ouais, Frédéric, est-ce que chez Mercedes, on va avoir de la sensibilité? Est-ce que Schumi va être en pilotage super fin? Est-ce que Rosberg, qui roule à la maison et qui connaît évidemment... c'est peut-être lui qui connaît encore le mieux.
Ils sont un paquet à rouler à la maison, là.
Ouais, mais il a grandi là, en plus, la Minico. Est-ce que Mercedes peut revenir un tout petit peu aux affaires?
Oui, parce que ici, la force maintenant de la Mercedes, ou la moindre faiblesse, pour être un peu plus... c'est leur qualification. Ils ont beaucoup travaillé sur la qualification et ils pêchent encore en rythme de course. En qualification, ils peuvent faire quelque chose et se rapprocher des meilleurs. D'autant que Rosberg, même s'il n'a jamais eu de bons résultats à Monaco, il est toujours bon. Malheureusement, il a eu toujours des accidents et il a toujours été au mauvais endroit au mauvais moment, mais il est bon à Monaco. Donc, Rosberg, il peut être haut demain après-midi. Schumacher, je l'espère, parce que je commence à désespérer.
Oui, c'est tout le monde commence un petit peu à désespérer. Les garçons, avant de refermer la page Formule 1, on va quand même poursuivre dans l'esprit monoplace pour dire un petit mot du GP2. Alors avec un championnat qui commence déjà à nous agacer parce que entre les pénalités, les rétrogradations sur la grille, enfin on ne sait plus très bien ce qui se passe. Bilan.
Écoutez, Grosjean en direct, là, il est parti dernier, il est actuellement quatrième.
C'est
pas mal. Hein.
Ouais, il est juste énorme. Sur ce coup-là. Ouais, parce
malheureusement, Bianchi a abandonné et Piquet est 9e.
Ouais, alors Bianchi.
Très bonne stratégie pour Grosjean en tout cas. Ouais. Ils l'ont gardé dehors le plus longtemps possible. Il a fait des très très bons tours et ça marche.
Ouais.
Et très très bon pilote.
Et puis Charles Pic est 9e. Il faut aller chercher la 8e place parce qu'on inverse les 8 premières places sur la grille. Donc s'il peut partir demain en pôle, mais là il faut prendre tous les risques pour aller chercher la 8e place.
Ouais, en tout cas, les petits Français, il faut qu'ils se montrent parce que dans cette série GP2, c'est Burt qui est leader devant Valsecchi, Parente, Jules Bianchi, Lotus ART, 8e du classement. Charles Pic, 12e. Je vous dis une bêtise. C'était les temps d'aujourd'hui. Ouais, je les ai là, les classements. C'est Vandergaard qui est en tête devant Simon
Mais
Bird.
La bonne nouvelle, c'est que Vandergaard est à deux tours et que Bird, qui a calé au départ, est 11e.
C'est carrément tout.
La grande chance des Français, c'est que pour l'instant, tout le monde s'est un petit peu partagé les points. Alors Bianchi a été pénalisé pour son accrochage avec Vandergaard en Espagne. C'est un peu aberrant parce que il ne peut pas faire ça volontairement ou c'est du suicide, mais enfin c'est pas franchement dans son intérêt. Du coup, Fred Vasseur essaye maintenant de calmer un peu le jeu. Là, du coup, ça s'est bien calmé puisque il est au stand, Pépère. Voilà.
Alors je reprends pour éclairer nos auditeurs. Vandergaard est leader du championnat avec Bird, 21 points tous les deux. Pic, 15 points et 3e. Grosjean, 13 points et 4e. Donc, vous le disiez, mon cher Fred, pour l'instant, la bonne affaire du jour, elle est au crédit de Romain Grosjean.
Et de Stefano Coletti.
Ouais, qui partait de très, très loin. Pour Bianchi, j'ai un peu l'impression que les week-ends se suivent et se ressemblent. Hein.
Malheureusement pour lui, oui.
Ouais. C'est compliqué.
Sur la question.
Ok, et puis il y aura bien évidemment la formule Renault 3.5 avec Jean-Éric Vergne pour leader actuel. La course, on va la suivre de très près parce que là aussi, il y a une vraie chance française des garçons qu'on pourrait un jour ou un autre retrouver pas très loin des paddocks de Formule 1. Merci Frédéric Ferret de votre disponibilité. Bon week-end de Grand Prix, Fred.
Merci à vous.
RTL L'équipe, carrément moteur, Christian Pasquet.
Ici, carrément moteur, vous êtes bien sur RTL L'équipe. Allez, on repart sur la piste. pour évoquer, messieurs, bien évidemment, enfin, dans cette première demi-heure, on a évoqué en long, en large et en travers le Grand Prix de Monaco. On est quand même impatient, Bruno. Hein.
Ah bah oui, quand même, c'est un truc. La seule chance de voir quelque chose bouger.
Ça va être un vrai truc quand même, parce que 24 Furio au départ, avec Maldonado au milieu, ça me fait peur.
Voilà, mon Dieu, j'avais oublié lui, tiens.
Non, c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est pas bien. François, vous êtes avec nous ?
Oui, toujours, oui.
Bon. François, vous le savez, Monaco, on peut aussi filer en Argentine très vite parce que ce week-end, il y a la sixième manche du championnat du monde qui en comporte 13. Et nous allons donc évoquer évidemment le rallye.
Est-ce que je peux encore faire une petite digression, une dernière sur la Formule 1? Il y a un petit détail assez marrant.
Ouais, vous pouvez en placer une, François, pas de problème.
Allez. Juste un truc, c'est que effectivement, beaucoup de la course va se jouer sur les pit stops.
Ouais.
Les uns ensemble. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la course à l'armement se produit dans les stands.
Ah.
À savoir que certaines équipes disposent de pistolets pour les changements de pneus plus efficaces que les autres. Et maintenant, la course aussi se résume à savoir comment on fait pour être le plus rapide pour changer les roues.
D'accord.
Et voilà, on utilise tous les arguments, les éléments possibles. Pour l'instant, c'est aussi le point faible de l'écurie Lotus Renault GP.
C'est vrai. Pas très bon sur ce coup-là.
Parce que voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont pas.
Ils ont des plus petits pistolets que les autres. C'est voilà, ça que vous voulez dire.
Bon, en tout cas,
mais
on l'a vu notamment à Barcelone avec Petrov, ça s'est pas toujours bien passé les passages au stand. Donc,
En fait, ils perdent 2 secondes à Barcelone sur les changements de roue de Nickelfeld, ça les fait perdre la sixième place puisqu'il.
Eh oui, évidemment. Alors, on vous a perdu, François, peut-être que vous allez revenir, vous êtes là, non ? Ah, on a perdu tout le monde, là. Oh là là, ça va mal, ce matin, il y a chute à l'arrière, il y a chute à l'avant. Les garçons, on parle rallye, c'est pas grave.
C'est peut-être la femme de ménage qui est rentrée dans la chambre de François.
Ah, François, revenez. En tout cas, les garçons, on change de rubrique, on change de discipline avec le rallye en Argentine. Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen, Sébastien Ogier, Yari Matila Dvala et consorts, notamment Peter Solberg, sont tous au pays des gauchos, dans la Pampa, du côté de Cordoba. Et là, c'est un sacré rendez-vous encore, parce que pour Loeb, en tout cas, c'est bis repetita. Il faut, mon cher Bruno, ouvrir la route, attaquer, rester sur cette route, enfin bref...
Et marquer les esprits surtout, les esprits psychologiquement, voilà, comme il l'a déjà fait en Sardaigne, et prouver encore une fois qu'en début de saison, on a peut-être enterré un petit peu vite Papy, et que Papy, eh bien, il est toujours là, et qu'il a encore de très bonnes chances d'être champion du monde à la fin de la saison, n'en déplaise à Ogier.
Alors mon cher Gilles, c'est quand même, ça va être chaud bouillant parce que l'ami Loeb, il le sait, il a tenté un coup assez audacieux en Sardaigne, c'est-à-dire tout pour l'attaque, ça a marché, c'est un peu ce qu'avait fait Ogier précédemment aussi, tout pour l'attaque. Loeb en plus, il a quand même un titre à défendre, c'est non seulement le titre de champion du monde, mais c'est surtout 5 victoires consécutives en Argentine, et on le sait, c'est un rendez-vous qui lui tient à cœur.
Oui, il est. J'avoue que je me souviens même plus avoir vu Loeb s'incliner en Argentine. Hein, il faut commencer à remonter au calendrier grec. Je pense que c'est un rendez-vous important. Enfin, c'est paradoxal, mais plus pour Ogier que pour Sébastien Loeb. Parce qu'admettons que Ogier gagne et que Loeb fasse deuxième. Il lui reprend 5 points. De toute façon, il repart devant au championnat. Par contre, si ça se passe mal pour Ogier, on peut se retrouver avec un écart qui, d'un seul coup, pourrait justifier qu'on demande un peu à calmer un tout petit peu le jeu par rapport aux deux coéquipiers chez Citroën. Donc,
c'est-à-dire à désigner de nouveau un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, ce qu'avait faire le patron de Citroën il n'y a pas longtemps, qui n'avait pas marché du tout.
Bah non, parce qu'il y a un ordre, qui est plus facile à instituer qu'un autre, donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai le sentiment que la pression est peut-être un peu plus sur Sébastien Ogier. D'un autre côté, vu que Loeb est le grand favori, et c'est peut-être lui qui a tout à perdre. Donc ça va être très très compliqué, mais ce résultat sera très important.
Il a jamais été aussi peu favori que cette saison.
On va demander à Jérôme Bourret qui est avec nous, from Argentina. Salut Jérôme.
Hola muchachos.
Merci d'être avec nous, Jérôme.
Tiens, il est revenu, lui.
Il est tôt chez vous.
Depuis j'étais dans un parc animalier où il y avait des zèbres.
C'est bien.
Les initiés comprendront.
À Monaco aussi, il y en a des drôles de zèbres.
Ouais. Mon cher Jérôme, vous vivez alors Argentine depuis quelques jours. Comment est l'ambiance? On sent bien que l'OB a envie d'y aller. On sait que Ogier, il ne veut pas en rester là. L'endroit est, l'endroit est bondé. Vous l'avez décrit récemment dans vos colonnes. C'est la fête en Argentine. Et est-ce que ça va être la fête chez Citroën? Est-ce qu'il y a bataille déjà?
Concernant l'ambiance, c'est juste hallucinant. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis 2 ans. On avait un peu rêvé en Alsace l'an dernier. Bah là, c'est juste de la folie. Depuis 2 jours, il se passe absolument rien dans le parc d'assistance. Il y a des milliers de personnes qui sont là, qui regardent les voitures. Alors avec pas mal de maladresse du côté de Ford, qui mercredi, alors que c'était journée de fête nationale en Argentine et qu'il y avait énormément de monde dans le parc d'assistance, avait mis toutes ses voitures sous bâche. Voilà, très sympa pour le public.
Bah oui.
Mais donc sinon beaucoup de monde dans la super spéciale d'hier, beaucoup de monde dans le shakedown qui a dû être annulé, interrompu en tout cas avant son terme à cause du public trop nombreux. Alors ça c'est pour le côté festif, pour le côté compète. Déjà tous les pilotes sont ravis d'être là et ils sont plutôt tous sur la défensive parce que ce parcours va vraiment pas être facile. Il est déjà pas facile d'habitude, notamment les spéciales d'aujourd'hui avec El Condor. Une spéciale vraiment difficile, vraiment cassante.
Et 37 km.
Petite nouveauté de l'organisation qui a rajouté une portion asphalte.
Ce
truc-là qui était déjà pas facile. Portion asphalte en descente, hyper rapide, qui sera abordée avec des pneus qui auront déjà fait 70 km de spéciale terre. Donc
ça va être bon, ça.
Voilà. Tous les pilotes craignent vraiment ce moment-là. Et qui dit asphalte dit Sébastien Loeb, donc lui devrait peut-être, même si c'est quand même pas de l'asphalte pur avec une vraie voiture réglée pour ça, peut-être qu'il sera plus à l'aise sur ces morceaux-là et que ça lui permettrait de creuser un peu l'écart aujourd'hui, mais j'ai tendance à penser que tout le monde va un peu s'observer aujourd'hui et demain et que tout se jouera dimanche dans la grande spéciale de 48 km.
Ouais, parce qu'on va le dire, il y a quand même ce morceau de bravoure hein, à Scochinga, à Guadeoro, 48 km de spécial, c'est l'épreuve spéciale numéro 16, c'est dimanche, pour les passionnés, on attendra les chronos parce que ça va être assez génial, et effectivement, vous le disiez Jérôme, ça peut se jouer là. François, vous qui êtes à Monaco, mais vous qui êtes un passionné de rallye aussi, il y a une vraie bataille, on le sait, chez Citroën, est-ce que l'ami Latvala pourrait lui aussi venir se mêler, et peut-être Peter Solberg pas très heureux depuis ce début de saison.
Peter, oui, pas très heureux, il a fait quelques petites erreurs lui-même. Pardon, Latvala aussi, Latvala est capable de se mêler à la bataille. A priori, l'adversaire que craignait, si on peut, s'il a quelque chose à craindre, mais l'adversaire désigné plutôt par Loeb, c'est bien Latvala qui est le plus rapide des deux pilotes Ford. Et sa position au championnat aujourd'hui lui permet de ne pas ouvrir la route sur les rallyes très ennuyeux de ce côté-là. S'il pourra peut-être en profiter, oui, qui sait, pour l'instant. Alors, juste un détail aussi, mais a priori, les conditions météo en Argentine ne sont pas celles habituelles, à savoir que la température est beaucoup plus élevée que d'habitude. Est-ce que je me trompe ou pas, mon cher Jérôme?
Ça dépend de l'heure de la journée. Là, il y a pas mal de condensation sur les fenêtres de ma chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'il fait, il doit faire 0 dehors. Hier matin à 8h, il faisait 1 degré quand le shakedown a commencé, puis ça monte. Et au plus chaud de la journée, il fait 21, 22 degrés. Et au soleil, on est vraiment, vraiment bien. Donc il y a vraiment une grosse amplitude thermique. Les pilotes ont été surpris, par exemple, au shakedown hier matin, par la poussière qui était soulevée. Il y avait énormément de poussière soulevée par les voitures, donc ça peut être un avantage pour Sébastien Loeb aujourd'hui qui part premier. Les autres, avec le soleil, au lever du soleil, pourraient être gênés par sa poussière.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir forcément bataille, mon cher Jérôme, chez Citroën. Ils sont comment, les deux Sébastien? Détendus, tranquilles, relax? Ça se passe comme ils le souhaitent?
Oh, ils sont comme d'habitude avec un peu plus de pression du côté d'Ogier qui dit 19 points ça commence à faire, donc il faut que je reparte d'Argentine avec au minimum un écart identique dimanche soir, ce qui veut dire que voilà, il faut prendre des points à l'aube, ce qui sera sûrement pas facile sur ce terrain-là, un terrain qu'il connaît pas beaucoup,
Donc il est voilà, il a le cul entre deux chaises, Sébastien Ogier, parce que il faut qu'il attaque, mais il connaît pas ce terrain-là. C'est pas un rallye facile, c'est piégeux. Il y a moyen de faire une connerie, donc voilà, il sait pas trop quel rythme adopter. Les spéciales du premier jour, il les aime pas du tout parce que c'est cassant, c'est piégeux, c'est casse-gueule. Donc il va être sur la défensive. Il aime bien celle du deuxième jour, mais contrairement à ses petits copains, il les a jamais faites en course. Donc il est pas dans une position facile au JS ce week-end.
Bon, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous promet du spectacle, parce que bien évidemment, chez Ford, et vous me le confirmerez, Jérôme, chez Ford, on n'a pas totalement renoncé. Et j'imagine que, bon, au rythme où il est parti, Yarimati Latvala, il est prêt à enclencher lui aussi la première et à mettre gaz. Et puis on le rappelle tout de même, Hirvonen n'est qu'à 7 points de Loeb, ça reste jouable pour lui aussi, hein.
Ouais, puis même s'ils n'ont pas gagné depuis longtemps, ils sont quand même ils sont dans le coup depuis le début de la saison. Hein. Mm-hmm. 2 dixièmes entre Ogier et Latvala en Jordanie, 11 secondes entre Loeb et Hirvonen en Sardaigne, donc la Fiesta, elle marche bien. Ouais, attention quand même un petit peu à eux, même si ce terrain leur a jamais réussi, je sais pas, il y a un problème, c'est un peu comme au Mexique, l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale leur réussit vraiment pas.
L'altitude donc, plutôt, pense... non, aussi, Jérôme?
Bah, là, on n'est pas très haut, hein. Il y a une spéciale à 2000 mètres, mais c'est pas... Toutes les autres spéciales sont plutôt en plaine, donc je pense pas que ce soit ça. Je sais pas trop d'où ça vient, mais ils peuvent toujours changer la donne. Mais c'est vrai que Latvala a une carte à jouer, notamment aujourd'hui. OJM disait qu'aujourd'hui il pensait plutôt à Solberg et à Latvala, qui ont déjà une position de départ favorable, et puis surtout sur des terrains comme cassants comme ça, c'est des pilotes qui sont réputés pour être des bourrins, voilà, tout simplement, on va le dire, qui ont peur de rien, qui ferment les yeux et qui se disent ça va passer. Donc là, sur les grosses spéciales cassantes d'aujourd'hui, s'ils partent à bloc et que ça passe, ouais, ça peut faire des temps.
Bruno, vous fermez les yeux, vous aussi, Bruno?
Beaucoup en ce moment, ouais. Un peu trop même des fois. Ce qui est symptomatique, c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est que quand on demande à Loeb quel est son adversaire désigné, il dit Latvala, il dit pas Ogier. Alors c'est quoi, c'est le coup du mépris ou c'est sincère?
Non, je pense qu'il sait à peu près dans quelle position est Ogier, hein, donc... On l'a vu en Sardaigne, Ogier vachement sur la défensive. Là, c'est pareil, il connaît pas ce rallye-là, donc il l'aborde un peu sur la défensive en disant, par contre, dès la Grèce, les petits gars, la Grèce, c'est un rallye sur lequel j'ai déjà fait podium, donc là, je repasserai vraiment à l'offensive. Et puis, il y a peut-être un petit peu d'intox, bien sûr, de la part de Sébastien Loeb, qui est plutôt champion en la matière.
Exactement.
Merci. Oui. Merci mon cher Jérôme, on va vous laisser prendre votre petit déjeuner tout. Ah oh, ouais, bah voilà, ça y est, c'est fait. Bon petit déjeuner, bonne journée de boulot mon cher Jérôme, merci d'avoir été avec nous. C'est super chouette de nous avoir décrit et de nous avoir livré les dernières infos en provenance d'Argentine, de Cordoba. Pour cette nouvelle manche du championnat du monde, la 6e sur les 13 que constitue le championnat. À très vite, mon cher Jérôme, à bientôt.
Bonne journée à tous.
Ciao.
Salut, Jérôme.
Mon cher François, on vous retrouve dans quelques instants. On file très rapidement à Roland-Garros.
Pour suivre tout Roland-Garros, écoutez RTL l'équipe.
Mon cher Eric, en plein dérapage sur la terre battue.
Ouais, on essaye de rester droit quand même, hein. Parce que ça glisse. Non, ce qui m'inquiète, je vous écoutais et je regardais le ciel, enfin du peu que je peux apercevoir de ma cabine parce que j'ai un mur de béton en face de moi, mais ça s'obscurcit terriblement et je crains la pluie.
C'est Roland-Garros, hein, s'il pleut pas au moins une fois dans la quinzaine.
C'est pas faux, il n'a pas plu hein, depuis le début, faut dire que ça fait un mois et demi qu'il fait super beau à Paris.
Je suis en moto là après l'émission, donc s'il pouvait ne pas pleuvoir, ça m'arrangerait.
S'ils peuvent tenir encore un quart d'heure, c'est ça?
L'essentiel c'est d'avoir des baskets full wet, parce que si vous mettez les intermédiaires, ça marche moins bien sous l'orage.
Ouais, mais ils mettent combien de temps à changer de basket?
Gilles de la Posta, même sous la pluie, il se balade non avec sa moto?
Bah ouais, il fait de la voilà. En wheeling.
Bon, alors un point sur les scores, messieurs. D'abord pour vous dire que David Ferrer, l'espagnol, attention à lui, n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi. Il est en train de coller une doudoune, comme dit notre consultant Julien Varlet, à Stakowski. 6-1 dans les deux premiers sets. Il faut en remporter 3 dans un grand chelem, donc il lui reste encore un peu de chemin, mais ça a l'air tout tranquille pour l'espagnol, tête de série numéro 7. Ça se passe bien également pour Francesca Schiavone, l'italienne tenante du titre. Elle mène 6-3. 3, 1-0 pour Peng dans la deuxième manche. Peng qui a fait appel au médecin, petit souci apparemment d'étourdissement pour la chinoise. Et puis Gisela Dulco, l'Argentine, a remporté le premier set face à Samantha Stosur, l'Australienne, finaliste l'an dernier, 6-4, mais Stosur a breaké dans la deuxième manche et mène 3 jeux à 1. Service à suivre, ça vous rassure hein.
Bah oui, parce que j'aime bien cette joueuse.
Stosur ?
Oui. D'accord. Je trouve qu'elle a un jeu plutôt sympa sur terre battue. Je l'avais trouvé plutôt douée l'an passé. Enfin, elle avait fait un très beau tournoi.
Ouais, non, enfin, c'est pas une humoriste non plus. Hein. En conférence de presse, elle est un sinistre.
Ah oui, elle est pas très rock'n'roll, Samantha Stosur, ça c'est certain. Mais si vous aimez les joueuses qui ont des choses à dire et des choses à montrer, je vous conseille, je sais pas si vous l'avez vu.
Choses à montrer, vas-y.
Non, vas-y, fais péter. Sur le cours, tout de suite, votre esprit tordu, Bruno. Je vous conseille la petite française, Caroline Garcia. Il y a 17 ans.
Ah oui.
On reparlera de cette jeune fille.
On l'a vu hier, c'était bien pendant un 7 et demi. Quoi.
Ouais, bon.
Ah, faut apprendre.
En reparlera de cette
brillante.
Jeune fille.
Non, brillante.
Andy Murray, vous avez vu, hein. Andy Murray a tweeté pendant le match. Numéro 4 mondial, quand même, Andy Murray, il sait de quoi il parle. Le tennis, il sait ce que c'est. Il a tweeté pendant le match alors qu'il était au bord du court. Tiens, je la connais pas, cette jeune fille, mais celle qui joue contre Sharapova, elle sera future numéro 1 mondial.
Bon, bah ça, c'est une belle référence quand même. Bravo. On suivra tout ça, on va suivre ça encore pendant une bonne dizaine de jours avec vous, mon cher.
Ah bah, jusqu'à dimanche prochain.
Bon,
peut-être même lundi s'il pleut.
Vous savez ce qu'on va faire là ?
Non, mais dites-moi.
On va bavarder avec des amis qui se sont installés chez vous là-bas.
Des vrais amis, c'est ça, je croyais que vous alliez dire.
Qui sont là-bas, vous savez, tout principe ôté.
Vous savez que mon cœur, ce week-end, c'est terrible.
On le sait bien.
Et le match du maintien dimanche soir, juste après le Grand Prix face à Lyon.
Vous avez un sale week-end,
le week-end
mon cher.
Est terrible. Ah oui, terrible.
Bon, allez, bon courage, Eric.
Ciao.
Jusqu'à midi et demi sur RTL L'Équipe. Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Et de quoi qu'on cause
Ce week-end, il se passe des choses partout dans le monde.
On parle du Grand Prix qui va se maintenir, on ne sait pas.
Dimanche, toute l'Amérique du sport auto va être les yeux rivés, messieurs, sur Indianapolis. François, ça fait 100 ans que ça tourne là-bas. C'est vraiment une affaire qui tourne, les 500 miles. Avec cette fois, messieurs, Alex Taliani en pôle. Et je regardais la moyenne autour pour être en pôle, 366 km/h. C'est juste invraisemblable. Non, mais ça marque toujours les esprits, François, accordez-moi ça, parce qu'eux, ils connaissent la mécanique, mais franchement, 366 de moyenne, c'est juste dingue. Quoi. C'est un truc, c'est...
Oui, c'est la moyenne sur 4 tours en plus.
Hein, ouais, c'est fou. C'est complètement fou.
Oui, c'est Indianapolis, c'est aussi pour ça. C'est pour la part de danger que ça représente, et le frisson pour le spectateur. Tout réside là-dedans, c'est de la folie, cette course. Et ça fait un siècle que ça dure, ce n'est certainement pas par hasard. Il y a quelque chose dans cette course. Il faut au moins aller voir ça une fois dans sa vie pour comprendre. C'est quelque chose d'extrêmement particulier, qui est très très peu familier aux Européens.
Ouais, il y a une part de pèlerinage en fait dans on y vient en pèlerinage.
C'est pas faux.
On y vient en pèlerinage avec des sacs McDo pleins à craquer.
Ah oui, et puis les saucisses,
c'est un truc de dingue.
Oui, mais en plus,
c'est un truc de
parce
dingue.
Que c'est,
non,
pas...
mais c'est merveilleux en même
non,
temps.
Non, mais parce qu'il n'y a pas que la course, il y a toute une semaine avec le bump day où il y a des qualifications et où jusqu'à la dernière seconde, le mec qui est 25e sur la grille peut sauter. Enfin, c'est juste énorme. C'est les 24 heures du Mans que les Américains qualifient de plus grande course du monde. Mais franchement, j'en ai discuté avec des commentateurs de ESPN. Il vous annonce les 24 heures du Mans comme la plus grande course du monde. Donc c'est l'endurance façon américaine avec le too much de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille plus vite, même si c'est plus dangereux. Bah tant mieux. Ça va plus vite, c'est plus dangereux. C'est le plus grand ovale. Enfin c'est juste. Hein,
c'est rollerball.
Oui c'est un peu
simple. C'est juste incroyable. C'est à Indianapolis. Alex Taliani est en pôle pour ce week-end. Scott Dixon est deuxième. Oriol Servia troisième. Petite perf plutôt intéressante du Belge Bertrand Baguette, 14e chrono, franchement c'est pas mal. Alors mon cher François, évidemment il y a des hommes à suivre, il y a Scott Dixon, il y a Dan Weldon qui est une autre gloire, un ancien vainqueur lui aussi.
Et surtout surtout, n'oubliez pas mon ami Simona.
Mais non, mais Givenet, François Givenet, c'est sur ma feuille.
La cousine.
Je vais faire dans l'ordre, François, parce que je voulais aussi évoquer Will Power qui mène le bal, qui mène le bal en Indy et qui sera juste en sixième position sur la grille. Et puis il y a Takuma Sato, ça m'a fait
Tiens,
Takuma est là. Il est aux États-Unis désormais. Et
ah bah quand on vous disait que c'était dangereux.
Quatre femmes sur la grille, François le disait, Simona De Silvestro, 24e, Danica Patrick, 26e, Pipa Man, 32e, Anna Beatrice, 33e. Et Simona, elle assure plutôt pas mal, mon cher François.
Ben, c'est surtout qu'il faut se souvenir d'où elle vient.
Mais oui, elle s'est blessée.
Elle a pris un énorme crash en essai, elle a fait des tonneaux, elle a eu très peur. Franchement, elle a eu très peur, rétrospectivement, Simona. Et elle raconte que au moment de remonter dans la voiture, elle s'est d'abord dit mais oulala, c'est complètement dingue ce qu'on fait là, c'est du délire. Ouais. Et puis quelques temps après, il s'agissait de remonter dans la voiture, elle s'est dit bah oui, mais de toute façon c'est mon job et j'y vais. Et donc ça veut dire que le mental de la jeune fille, c'est quand même quelque chose en acier trempé quoi. Ouais. Elle est vraiment très costaud et malgré ses mains brûlées, faut quand même aussi rappeler ça. Elle a une main qui est brûlée au deuxième degré. Elle a réussi quand même à être la mieux qualifiée des filles au départ, alors que on connaît aussi les qualités de Danica Patrick.
Absolument.
Qui a quand même fini troisième des 500 miles il y a, je sais plus quelle année. Qui a un vrai tempérament, quoi. Mm-hmm. Donc, moi, je tire mon chapeau à Simona pour ce coup-là.
Il faudrait en parler un jour, Christian, avec Sébastien Bourdais, qui les a fait ces 500 miles. Et quand on en parle off avec Sébastien, il vous dit c'est vraiment un truc de barjou. Je l'ai fait une fois dans ma vie, très sincèrement, j'ai pas envie d'y retourner. En plus, pendant la course, Bruno Junqueira, son coéquipier, était allé taper dans le mur. Ils l'ont évacué sans pouvoir lui dire dans quel état il était. Enfin, on voyait bien, ils ont bien compris les pilotes que c'était sérieux. Il a tapé par l'arrière et tout. Enfin, c'était vraiment. Et il dit non, c'est vraiment un truc, c'est un truc de gladiateur, quoi. Donc, qui est quatre femmes qui s'engagent et qui vont au front, quoi. Elles sont pas là pour dire on est au départ des 500 miles. Des nanas comme Danica Patrick, comme Simona, elles vont y aller en se disant qu'elles ont la gagne peut-être au bout de la course. Donc c'est vraiment une course comme on en a plus trop. C'est un peu le Tourist Trophy, quoi. Il y a vraiment une dimension de danger imminent à chaque seconde dans ces courses.
Alors vous l'évoquiez, mon cher Gilles, Sébastien Bourdais a participé en 2005 à cette course. Il y a d'autres Français, il y a Stéphane Grégoire, sept fois, dont la dernière en 2006. Philippe Gache aussi, il l'avait fait en 92. Il avait pris une super boîte, Philippe Gache, cette année-là. Il s'était fait très 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 peur. Et on sait qu'il y a encore des Français qui veulent y aller. Allez-y, disait qu'il justement il voulait y aller en 2012. Et puis on a un certain Simon Pagenaud aussi qui aimerait bien s'y essayer. Donc, on va suivre ça de près. Là, on va enchaîner les week-ends.
Est-ce qu'il y a une discipline dans le sport mécanique où Simon Pagenaud n'a pas envie de s'essayer?
Mais ça marche à chaque fois. Comme ça marche.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, on va suivre ça de près parce que ce week-end, il y a évidemment le Grand Prix de Monaco, mais il y a les 500 miles et puis on va enchaîner ensuite avec pas mal de compétitions. Pour tous ceux qui aiment ça, à ne pas manquer un grand moment. C'est une course de légende, tout simplement. Ça fait partie de la tradition aux États-Unis.
Oui, puis il faut combattre l'a priori qu'on a nous Européens sur les courses sur ovales. Il faut, si on est fan de sport mécanique, il faut pas avoir de racisme ou de ségrégation en se disant les courses sur ovales ça tourne en rond. Là. Regardez-le au moins une fois parce que ça fait partie de la culture des sports mécaniques. Même si ça peut, c'est vrai qu'il y a un moment ce qu'on appelle le ventre mou de la course, c'est-à-dire qu'à un moment oui effectivement c'est une course d'endurance, donc on attend que ça se dégrade un petit peu, que ça s'écrème un petit peu et après sur la fin le dernier rush c'est juste fabuleux, quoi.
Alors, il y a des hommes qui se sont rendus très célèbres là-bas parce qu'ensuite on les a retrouvés en Formule 1. Je pense notamment à Jacques Villeneuve qui avait gagné cette course en 95. Juan Pablo Montoya en 2000. François, c'est quand même des solides pilotes qui s'imposent là-bas. On parlait de F1 à l'instant. Il y a aussi Jim Clark
Graham Hill.
Mario Andretti, Emerson Fittipaldi. Il y a du beau monde qui s'est imposé là-bas, hein.
Oui, absolument, oui, mais c'est une course d'hommes, pardon pour l'expression un peu machiste, mais c'est une vraie course de caractère avec toutes les qualités humaines, la force de caractère que ça nécessite, et la finesse de pilotage n'est pas trop l'objet là-bas. C'est surtout avoir un sens stratégique important et une intelligence de course. Et ça, bon, quand on se souvient de cette époque de Jim Clark qui avait gagné les 500 miles et qui avait été champion du monde la même année, ouais. C'est un exemple unique. Mais beaucoup d'autres témoignent de cette intelligence de course. L'année dernière, Mario Franchitti, par exemple, a fait preuve de beaucoup de sens de la course, par exemple. Voilà. C'est aussi là-dessus que ça joue.
On en reparle la semaine prochaine, Gilles. Avec plaisir. Un dernier mot, ouais, j'ai voulu ajouter Edith Moutou.
Non, bah, par rapport à
que ça vous passionne.
Par rapport à Jim Clark, on n'est plus tout à fait dans le même contexte. Aujourd'hui, c'est vraiment des courses de spécialistes, et c'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends Jean Lézy qui dit qu'il veut y aller. Il faut un peu se rendre compte des choses. Un Simon Pagenaud qui a fait un petit peu d'ovale, il sait très bien que s'il veut y aller, il faut qu'il se prépare. Faut se préparer avant. C'est pas une course qui s'improvise parce que ça ne fait que tourner à gauche. Il faut un vrai savoir-faire, il faut un vrai entraînement.
C'est vrai.
Et on s'improvise pas pilote au 500 miles d'Indianapolis sous peine de se faire très 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 mal.
Ouais.
On en reparle la semaine prochaine, les garçons. On arrive au terme de cette émission, François. Je suis désolé.
Ouais. Dernière chose. Ouais, la course GP2 est terminée. Victoire de Valsecchi. Grosjean quatrième.
Bon, eh bien voilà, on a l'info en direct. Merci, François. Passez un très bon week-end de course, François. Revenez-nous la semaine prochaine. On débriefera évidemment ce Grand Prix. On débriefera les 500 miles et puis aussi le rallye et puis le GP2 et la Formule 3.5. Les garçons, bon week-end à vous.
Bon week-end.
Salut Gilles.
Bon week-end à tous.
Allez, salut François, bon week-end à vous tous.